Voilà, merci d'être revenu. Je prends ça comme un encouragement pour moi à poursuivre. J'espère que ce n'est pas trop pénible pour vous d'avoir cette lecture un peu comme ça, à la fois un peu superficielle et j'espère un peu profonde de l'encyclique. Vous remarquez que c'est une lecture aussi qui est partielle et partiale. Partielle parce que de fait, je ne lis pas tout, évidemment. Ça vous invite à lire entre ce que j'ai lu. Et partiel aussi, parce que de fait, moi j'insiste sur sur l'aspect spirituel et moral. Et voilà, disons que j'intègre cette réflexion dans une forme de retraite que vous faites ici à Montlignon. Voilà, on est un peu entre les deux, entre enseignement et retraite. Et donc j'insiste un peu pas mal sur l'aspect de la conversion, je pense que je ne trahis pas le texte ni la pensée du pape François. Voilà, pardon de pas tout à fait gérer le temps de manière à laisser place à des questions à la fin. On verra si tout à l'heure ça peut mieux se faire. Donc on attaque la deuxième partie, troisième et quatrième chapitre de l'encyclique. Donc cette question du paradigme technocratique qui est dénoncée par le pape François, mais qu'il faut, pour s'en débarrasser, disons qu'il faut un petit peu regarder de près. Et puis la solution qui est celle qu'il appelle la conversion écologique. Vous aurez compris maintenant que quand le pape parle de conversion écologique, il ne fait pas du tout le jeu des écolos comme on a l'habitude de l'entendre. Il n'encourage pas simplement à planter des arbres et tout ça. Il va beaucoup plus loin que cette question simplement environnementale, sans du tout la dénigrer, mais en l'intégrant vraiment, mais en la dépassant aussi. Donc la conversion écologique, c'est une autre dimension de l'écologie. Voilà, troisième chapitre, donc la racine humaine de la crise écologique. La crise écologique, elle a une racine humaine, on l'a vu. Et on va regarder d'un peu plus près cette racine humaine de la crise écologique. Il est dit pour introduire ce troisième chapitre, numéro 101. Il ne sert à rien de décrire les symptômes de la crise écologique si nous n'en reconnaissons pas la racine humaine. Voilà. Faire la liste, comme on l'a souvent, de tout ce qui ne va pas, on nous présente rarement la racine humaine de la crise. On nous présente ce qui ne va pas, mais pas la cause. On va essayer de que ça ne déconne pas, ça. Voilà. Il y a une manière de comprendre la vie et l'activité humaine qui a dévié et qui contredit la réalité jusqu'à lui nuire. Il y a un ingénieur parmi vous ? Dans cette réflexion, je propose que nous nous concentrions sur ce qu'il appelle le paradigme technocratique, dominant, ainsi que sur la place de l'être humain et de son action dans le monde. Voilà. Donc le paradigme technocratique et la place de l'homme dans le monde. Donc la technologie, première partie du chapitre, créativité et pouvoir. Créativité, c'est l'aspect très positif qu'il va souligner. Avec la question à se poser, comment est-ce que, puisque la technique me donne un pouvoir, on le constate, comment est-ce que je l'utilise ? Donc numéro 102, il fait l'apologie de la technique en quelque sorte, au sens où elle est le lieu d'une créativité. Créativité, ça doit être mis en rapport pour nous avec créateur. Dieu est créateur et nous sommes créés à l'image de Dieu qui est créateur. Donc la créativité est quelque chose d'extrêmement noble dans notre travail, dans tout ce que nous faisons. Et la technique est un lieu où s'épanouit cette créativité. Donc il ne s'agit pas de dire « halte à la créativité, arrêtez de faire n'importe quoi ». Il s'agit de dire « il faut promouvoir la créativité qui est une dignité de l'homme, une noblesse de l'homme ». Il est juste de se réjouir face à ses progrès et de s'enthousiasmer devant les grandes possibilités que nous ouvrent ces constantes nouveautés. Parce que la science et la technologie sont un produit merveilleux de la créativité humaine, qui est un don de Dieu. Voilà. Donc il n'y a pas de complexe à avoir sur le fait d'être créatif, d'être inventif, d'être ingénieux, de trouver des solutions, d'inventer des choses. Voilà, il faut pouvoir se lâcher là-dedans, tout en gardant raison. La technologie a porté remède à d'innombrables maux qui nuisaient à l'être humain et le limitaient. Nous ne pouvons pas ne pas valoriser ni apprécier le progrès technique. Donc, on ne peut pas soutenir d'entendre que l'Église est contre le progrès ou je ne sais pas quoi. Non, c'est clairement écrit. nous ne pouvons pas ne pas valoriser ni apprécier le progrès technique, surtout dans la médecine, l'ingénierie et les communications. Et comment ne pas reconnaître tous les efforts de beaucoup de scientifiques et de techniciens qui ont apporté des alternatives pour un développement durable. Voilà. Une manière d'être doublement ingénieux, c'est que notre génie soit utile et durable. Voilà. La technoscience bien orientée, non seulement peut produire des choses réellement précieuses pour améliorer la qualité de vie de l'être humain, mais encore est capable de produire du beau. Donc il y a une autre dimension qui s'ajoute dans la réflexion, là. C'est la question du beau. Non seulement on peut faire du bien, mais en plus, la technique peut faire du beau. Et le beau, ça nous rapproche de Dieu. Et il y a des choses belles qui sont liées à la peinture, à la musique, à l'art en général. Mais je ne vous ferai pas de leçons des arts et métiers. Voilà. Il y a quelque chose de beau qui doit surgir dans l'ingénierie, dans les produits techniques, de la nanoscience au building ou je sais pas quoi, aux ouvrages d'art gigantesques. Il y a quelque chose de la technique qui élève, qui laisse quelque chose de l'ordre du beau. Voilà. Et en ce sens-là aussi, ça rajoute de la noblesse à la créativité. Donc ce qui est capable de produire du beau, de projeter dans le domaine de la beauté l'être humain immergé dans le monde matériel. Peut-on nier la beauté d'un avion ou de certains gratte-ciels? Il y a de belles œuvres picturales et musicales réalisées grâce à l'utilisation de nouveaux instruments techniques. Ainsi, dans la recherche de la beauté de la part de celui qui produit la technique, et en celui qui contemple cette beauté, se réalise un saut vers une certaine plénitude proprement humaine. Voilà. Donc avec la technique, on peut passer, élever l'homme dans le beau, aussi bien celui qui produit cette chose technique belle que celui qui la contemple, et on fait faire à l'homme un saut, voilà, un progrès. Justement, plus qu'un progrès technique, un progrès aussi humain, je dirais. Donc la question du beau aussi à sa place. Mais, il y a un mais, on l'attend, numéro 104, effectivement, mais nous ne pouvons pas ignorer que l'énergie nucléaire, la biotechnologie, l'informatique, la connaissance de notre propre ADN et d'autres capacités que nous avons acquises, nous donnent un terrible pouvoir. Nous avons un terrible pouvoir. Nous, ingénieurs, nous avons un terrible pouvoir. Il faut l'attendre aussi pour nous. Mieux, ces sciences donc donnent à ceux qui ont la connaissance et surtout le pouvoir économique d'en faire usage, une emprise impressionnante sur l'ensemble de l'humanité et sur le monde entier. Voilà. Là, on a un exercice de la domination liée à la technique qui peut être voilà, à double tranchant. Soit on fait du beau et de l'utile, soit on fait un peu de beau et d'utile, mais beaucoup d'inutile. Et surtout, un outil de pouvoir, un moyen de dominer, un moyen de se protéger, de s'extraire du reste du monde, quitte à exploiter les autres. Voilà. Je caricature, mais bon, on connaît cette situation, en tout cas elle est décrite par le pape. Jamais l'humanité n'a eu autant de pouvoir sur elle-même, et rien ne garantit qu'elle s'en servira toujours bien. C'est une évidence pour nous. Bon, il fait par les bombes atomiques, tout ça. Les exterminations qui ont eu lieu au XXe siècle. Voilà, on a des raisons modernes. On peut se demander parfois pourquoi l'Église, aujourd'hui, parle de toute cette dimension écologique comme si c'était quelque chose de nouveau. C'est pas nouveau, mais il y a des phénomènes mondiaux, sociaux, environnementaux qui sont nouveaux et qui permettent à l'Église de préciser sa pensée et de mettre son grain de sel là-dedans, quoi. Numéro 105, on a tendance à croire que tout accroissement de puissance est en soi un progrès. Là, ça me permet de faire une petite parenthèse. Grosso modo, si on situe lecteur de cette encyclique comme ingénieur, ça veut dire qu'on ne peut pas se passer d'être aussi philosophe. Ça me paraît être une dimension importante. Ça fait sourire certaines. Très bien. Je m'adapte à mon auditoire. Mais ce n'était pas calculé. Non, je sens qu'on ne peut pas... On ne peut pas faire des ingénieurs techniques basta. On ne peut pas, nous, être des ingénieurs techniques et ça suffit. Ça, c'est un problème pour le monde d'éduquer partiellement et de spécialiser comme ça. Un ingénieur ne peut pas ne pas être philosophe. Parce qu'il doit avoir une réflexion sur le progrès. Parce qu'on a tendance à croire que tout accroissement de puissance est en soi un progrès. Un degré plus haut de sécurité, d'utilité, de bien-être, de force vitale, de plénitude des valeurs, comme si la réalité, le bien et la vérité surgissaient spontanément du pouvoir technologique et économique lui-même, comme si tout ce qui était faisable et fait était forcément bon. Le fait est que l'homme moderne n'a pas reçu l'éducation nécessaire pour faire un bon usage de son pouvoir. Ça, il faut le constater. Nous faisons partie des hommes modernes. Nous n'avons pas reçu. On a reçu une bonne éducation, à beaucoup de points de vue. Mais on n'a pas reçu suffisamment, en tout cas, l'éducation nécessaire pour faire un bon usage du pouvoir que nous avons. Je pense que c'est à peu près absent de nos éducations et formations. La question du sens de ce que nous fabriquons, de ce que nous faisons, de comment on intervient. Voilà. Après, il y a des métiers, des professions, il y a des écoles qui sont plus sensibles à ça. Je pense que dans ces métiers, on a nos fameuses valeurs qui sont peut-être un tremplin quelque part pour dire qu'on n'est pas complètement débutant en la matière, mais je pense qu'on n'a pas été très loin pour autant. Quoi. Je vais faire un petit couplet à ce sujet tout à l'heure qui me tracasse depuis tout à l'heure. Là. Voilà, je me rappelle d'un ouvrage connu, Le rôle social de l'officier. Il y a des métiers qui ont pris un petit peu à cœur cette dimension sociale. Je pense que les médecins ont ça à cœur un petit peu, au moins certains, etc. Voilà, je pense qu'il y a matière à s'interroger sur le rôle social de l'ingénieur. Aujourd'hui, ingénieur arts et métiers chrétiens, nous ne pouvons pas ne pas nous interroger sur notre rôle social, et je dirais même mondial, puisque le pape insiste pour dire que tout est lié. Le niveau local et le niveau mondial, c'est un fait. Nous avons, dans notre travail, un rôle social. Sommes-nous éduqués et formés pour l'accomplir, ce rôle social ? Nous avons un devoir, en quelque sorte. Voilà. Parce que l'immense progrès technique n'a pas été accompagné d'un développement de l'être humain. C'est incroyable, ça. On a développé des compétences techniques gigantesques qui appellent normalement à un développement humain parce qu'il faut assumer cette responsabilité nouvelle que nous avons. Ayant un nouveau pouvoir dans les mains, il faut être formé à gérer ce pouvoir. Or, on n'a pas été formé à ça. Bon, de manière générale, en tout cas. Ce progrès technologique n'a pas été accompagné d'un développement de l'être humain en responsabilité, en valeur, en conscience. Il manque aujourd'hui une éthique solide, une culture et une spiritualité qui le limitent réellement et le contiennent dans une abnégation lucide. Ça, c'est dur à entendre. Parfois, c'est insupportable même à entendre pour certains qu'il puisse y avoir une limite dans le progrès. Eh bien, il y a matière à réfléchir. Aujourd'hui, dit le pape, en tout cas, il manque une éthique solide, une culture, une spiritualité qui limite réellement, limite réelle, ce serait une vraie limite, une vraie continence, et le contiennent dans une abnégation lucide. Deuxièmement, la globalisation du paradigme technocratique, ce fameux monstre, paradigme technocratique. Numéro 106, voilà. Le problème fondamental est autre et encore plus profond. On n'est pas encore au fond du problème. Le problème fondamental est autre, encore plus profond. La manière dont l'humanité a de fait assumé la technologie et son développement avec un paradigme homogène et unidimensionnel, une conception du sujet y est mise en relief qui progressivement dans le processus logique et rationnel embrasse et ainsi possède l'objet qui se trouve à l'extérieur. J'essaie de comprendre ce que je comprends de tout ça. Grosso modo, on a un regard sur le progrès technique qui aujourd'hui est le regard qui catégorise tout ce qu'on peut regarder. Tout est vu sous l'angle de la technique. Pas seulement la technique elle-même, mais aujourd'hui on juge de l'ensemble des réalités du monde selon le regard qui est technocratique. C'est ça le paradigme technocratique. C'est qu'aujourd'hui, le regard qu'on a sur la technique est en fait le regard universel. Tout est vu comme chose potentiellement technique. Tous les sujets qui sont sous le regard de l'homme sont regardés comme faisant partie d'un système technique pour lequel l'homme se pense le génie. Dieu à la place de Dieu. Ce que Dieu sait faire, c'est créer. L'homme ne sait pas créer. L'homme sait être technique. L'homme sait bricoler. Donc puisqu'il sait faire ça et qu'il veut être Dieu, il va dire, tout le monde entier, ça va être ce que je sais bricoler. Voilà. Et tout ce qui existe puisque je ne veux pas en laisser la domination à Dieu, mais c'est à moi, et que moi, ce que je sais faire, c'est bricoler, et bien, tout ce qui existe doit être considéré, apprécié, regardé sous cet aspect de technicité. Voilà ce que je comprends de ce paradigme technocratique. C'est comme, le sujet, tout sujet, se déploie dans l'élaboration de la méthode scientifique et avec son expérimentation. C'est-à-dire, la méthode, l'expérimentation scientifique ne sont plus seulement pour ce qui est spécifiquement scientifique, mais pour tout finalement, pour la médecine, pour l'être humain. L'être humain est un sujet technique aujourd'hui. Voilà. Ce sujet, donc tout sujet, se déploie dans l'élaboration de la méthode scientifique avec son expérimentation, qui est déjà explicitement une technique de possession, de domination et de transformation. C'est comme si le sujet se trouvait devant quelque chose d'informe. Le sujet, là, c'est nous. Comme si tout ce qui existait était informe et totalement disponible pour la manipulation. Tout est matière à bricoler. C'est ça le paradigme technocratique. L'intervention humaine sur la nature s'est toujours vérifiée. C'est pas nouveau que l'homme intervient sur la nature. Mais longtemps, elle a eu comme caractéristique d'accompagner, de se plier aux possibilités qu'offrent les choses elles-mêmes. Il s'agissait de recevoir ce que la réalité naturelle permet de soi, comme en tendant la main. Mais maintenant, en revanche, ce qui intéresse, c'est d'extraire tout ce qui est possible des choses par l'imposition de la main de l'être humain, qui tend à ignorer ou à oublier la réalité même de ce qu'il a devant lui. Voilà pourquoi l'être humain et les choses ont cessé de se tendre amicalement la main pour entrer en opposition. Il y a un conflit entre nous et la nature, parce que grosso modo, on agresse la nature. Au lieu de l'accompagner, de la développer avec les lois qui lui sont propres, on l'agresse pour l'exploiter et l'utiliser. De là, on en vient facilement à l'idée d'une croissance infinie ou illimitée, on pense que tout est possible. Cette possibilité a enthousiasmé beaucoup d'économistes, de financiers, de technologues. Cela suppose le mensonge. Le Vab dit c'est un mensonge. Cela suppose le mensonge de la disponibilité infinie des biens de la planète, qui conduit à la presser jusqu'aux limites et même au-delà des limites. C'est un faux présupposé. Mensonge, faux présupposé. Faut présupposer qu'il existe une quantité illimitée d'énergie et de ressources à utiliser, que leur régénération est possible dans l'immédiat, et que les effets négatifs des manipulations de l'ordre naturel peuvent être facilement absorbés. Ça, dit le pape François, il ne dit pas que c'est une erreur. Il dit que c'est un mensonge et un faux présupposé. On peut dire par conséquent qu'à l'origine de beaucoup de difficultés du monde actuel, il y a avant tout la tendance, pas toujours consciente, à faire de la méthodologie et des objectifs de la technoscience un paradigme de compréhension qui conditionne la vie des personnes et le fonctionnement de la société. Les effets de l'application de ce moule à toute la réalité humaine, ce n'est pas seulement un moule pour la science, c'est un moule qui va s'appliquer maintenant à toute la réalité humaine et sociale. Et les effets de ce moule se constatent dans la dégradation de l'environnement, mais cela est seulement un signe du réductionnisme qui affecte la vie humaine et la société dans toutes leurs dimensions. Le paradigme technocratique est devenu tellement dominant qu'il est très difficile de faire abstraction de ses ressources, et il est encore plus difficile de les utiliser sans être dominé par leur logique. Je pense que c'est pour ça que c'est important de se préciser la conscience sur ce paradigme technocratique, de ne pas avoir peur d'être un peu écœuré. Tant pis, on n'en sortira pas si on ne prend pas bien conscience de ça et jusqu'où ça va. Tellement il est dominant, tellement on est imprégné par cette mentalité aussi, tellement il est difficile de faire abstraction des ressources qu'offre ce paradigme technocratique, parce qu'on est bien content d'avoir des frigidaires, des lave-linges, des voitures, tout ça. On est quand même bien content. D'ailleurs, on est mordu par ça. Il est encore plus difficile de les utiliser sans être dominé par leur logique. Donc on a vraiment le mot n'est pas du pape, mais un vrai combat. Il y a vraiment un défi pour le monde, pour l'Église et pour nous aussi. c'est devenu une contre-culture de choisir un style de vie avec des objectifs qui peuvent être, au moins en partie, indépendants de la technique, de ses coûts, comme de son pouvoir de globalisation et de massification. Aujourd'hui, quelqu'un qui vient un peu différemment, qui veut s'extraire et pas dépendre absolument de ce système-là technocratique, c'est un rebelle, quoi. C'est une contre-culture. Et de ce fait-là, c'est forcément pour l'instant minoritaire, critiqué, moqué, etc. De fait, la technique a un penchant pour chercher à tout englober dans sa logique de faire. Et l'homme qui possède la technique sait que, en dernière analyse, ce qui est en jeu dans la technique, ce n'est ni l'utilité, ni le bien-être, mais la domination. Si on s'étudie bien, la technique qu'on met en œuvre, est-ce qu'elle a vraiment un but gratuit de faire du bien? L'utilité? Non, bien souvent, dans beaucoup de cas sans doute, si ce n'est dans l'énorme majorité, le but c'est un peu caché, c'est la domination. Une domination au sens le plus extrême de ce terme. Le paradigme technocratique, je suis au numéro 109. Le paradigme technocratique tend aussi à exercer son emprise sur l'économie et la politique. L'économie assume tout le développement technologique en fonction du profit, sans prêter attention à d'éventuelles conséquences négatives pour l'être humain. Aujourd'hui, tant qu'il y a un profit économique, ça va. Et même la politique peut être au service du profit économique de certaines entreprises, etc. Les finances étouffent l'économie réelle. On affirme que les problèmes de la faim et de la misère dans le monde auront une solution simplement grâce à la croissance du marché. Voilà un lieu d'application de ce paradigme technocratique. On ne veut tellement pas en sortir qu'on dit même que les problèmes que nous avons, on va les résoudre par la technique. Ça, c'est ne pas sortir, c'est ne pas... C'est s'enfermer dans sa logique, quoi. Ce n'est pas une question de validité de théorie économique. Le problème n'est pas dans l'intelligence des choses. Ce n'est pas donc une question de validité de théorie économique que peut-être personne aujourd'hui n'ose défendre, mais c'est un problème de leur installation de fait dans le développement de l'économie. Il y a plein de gens qui sont contre, mais de fait, comment on appelle ça, ces théories économiques, elles sont installées. Elles sont financées, elles sont organisées. Voilà, on peut les critiquer, mais pour en sortir, c'est autre chose, quoi. Et ceux qui n'affirment pas cela en parole le soutiennent dans les faits. Voilà. Par le mode de vie, par un tas de choses, même si on est contre, objectivement, on vit pareil, quoi. Donc ceux qui ne soutiennent pas cela en parole le soutiennent dans les faits. Quand une juste dimension de la production, une meilleure répartition des richesses, une sauvegarde responsable de l'environnement et les droits des générations futures ne semblent pas les préoccuper. Il ne s'agit pas seulement de dire « je suis contre une telle ou telle théorie économique ». Si dans la pratique, la question de la répartition de la richesse, la question de la sauvegarde de l'environnement, la question des droits des générations futures ne m'importe pas, ça veut dire qu'en fait, je cautionne. Par leur comportement, ils indiquent que l'objectif de maximiser les bénéfices est suffisant. Mais le marché ne garantit pas en soi le développement humain intégral, ni l'inclusion sociale. Bref, on a du boulot, et il finit son paragraphe 109 en disant « On n'a pas encore fini de prendre en compte les racines les plus profondes des dérèglements actuels qui sont en rapport avec l'orientation, les fins, le sens et le contexte social de la croissance technologique et économique. On n'a pas fini de prendre en compte ces racines qui dérèglent et qui mettent en rapport la question technologique et économique, mais avec la question de son orientation, de sa finalité, du sens et du contexte social dans lequel elle intervient. Numéro 110, le problème de la spécialisation de la technologie. La spécialisation de la technologie implique une grande difficulté pour regarder l'ensemble. La fragmentation des savoirs sert dans la réalisation d'applications concrètes, mais elle amène en général à perdre le sens de la totalité des relations qui existent entre les choses, d'un horizon large qui devient sans importance. En clair, on devrait avoir dans les écoles d'ingénieurs de la botanique, du jardinage, de la philosophie, de la politique. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Si on fait les uns séparément des autres, ben on ne va rien régler du tout. Quoi. Donc il y a beaucoup d'implications sur l'éducation là. Moi là, je pense à ceux qui sont parents, qui ont des enfants. Il y a un enjeu éducatif de saisir ces choses-là pour former des générations nouvelles. On est tellement nous imprégnés que changer de culture, ça va prendre des générations. Voilà. Donc il faut commencer tôt. Quoi. Une science qui prétendrait offrir des solutions aux grandes questions devrait nécessairement prendre en compte tout ce qu'a produit la connaissance dans les autres domaines du savoir, y compris la philosophie et l'éthique sociale. On devrait avoir des cours de morale aux arts et métiers aussi. Mais c'est une habitude difficile à prendre aujourd'hui. Voilà, on a remarqué. La vie est en train d'être abandonnée aux circonstances conditionnées par la technique, comprise comme le principal moyen d'interpréter l'existence. Voilà. Paradigme technocratique. Le seul moyen d'interpréter l'existence, la technique. Dans la réalité concrète qui nous interpelle, divers symptômes apparaissent qui montrent cette erreur, comme la dégradation de l'environnement, l'angoisse, la perte du sens de la vie et la cohabitation. Je ne sais pas pourquoi mes cohabitations là, mais... La culture écologique ne peut donc pas se réduire à une série de réponses urgentes et partielles. Voilà, les biologistes de leur côté, les politiques de l'autre, les financiers de l'autre. On peut pas résoudre ça comme ça. Elle devrait être, cette culture écologique nouvelle, un regard différent, une pensée, une politique, un programme éducatif, un style de vie et une spiritualité qui consisterait une résistance face à l'avancée du paradigme technocratique. Alors, il faut rentrer vraiment en résistance. Pour entrer en résistance, il ne s'agit pas juste d'avoir quelques idées sur tel ou tel sujet particulier. Il s'agit de fonder une culture, c'est-à-dire avec tout l'aspect vaste que ça doit contenir, je vous refais la liste, une pensée, une politique, un programme éducatif, un style de vie, une spiritualité. Voilà différents aspects d'une culture qu'il faut changer. Et donc ça fait appel à tout ce que chacun peut faire. Alors, on ne peut pas tous être philosophe ou ingénieur ou tout ce qu'on veut. Mais chacun à sa manière peut travailler à l'intégration de tout ça, en tout cas. Et donc j'avais une petite parenthèse à vous proposer, parce que grosso modo, j'étais un petit peu. Enfin, je réfléchissais tout à l'heure en écoutant l'Assemblée Générale et certaines réflexions qui ont été faites. Et notamment cet appel qui était fait par la SOS à la Bifutière d'intervenir sur GATS TV et autres sur des sujets de société, disons. Il y avait cet aspect-là qui m'interrogeait, et l'autre aspect qui m'interrogeait aussi, c'est la question plus pratique des cotisations. Vous voyez, ça n'a rien à voir, ces deux choses-là. Alors en fait, moi je trouve que ça a à voir. Je trouve que ça a à voir. Parce qu'en fait, on peut réfléchir, je ne voulais pas le faire dans le cadre de l'Assemblée Générale, parce que ce n'était pas forcément le lieu, et puis je voulais que ce soit porté par la réflexion qu'on a ensemble là. Donc je le fais maintenant. Grosso modo, qui sommes-nous là? On est une poignée de gazards chrétiens qui se réunit. Qu'est-ce que nous voulons être? Voilà, je ne sais pas exactement quel est l'objet social de l'association Bifutière. J'ai entendu en tout cas cet aspect de soutenir les aumôneries dans les écoles, etc. C'est une dimension. Mais à l'écoute de cette encyclique, on pourrait se dire, mais ça je laisse ça à votre discernement, peut-être que c'est à voir ensemble, à voir peut-être en bureau de la Bifutière, je sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas un appel à être un petit peu le levain dans la pâte là-dedans, là, et à se dire, ben, l'objet de la Bifutière pourrait être, ou un des objets pourrait être de former des ingénieurs, de forger une culture, enfin de participer à ce changement de la culture, voilà. Chacun le fait là où il est. Donc vous le faites dans vos familles, vous le faites avec vos amis, voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas matière à faire de la Bifutière aussi le lieu où on va travailler particulièrement cette question-là, où on va rassembler davantage d'ingénieurs chrétiens, gazards, qui veulent vraiment se former à cette nouvelle culture et vraiment mettre des moyens pour ça. Et aller plus loin, offrir aussi donc, parce qu'on a constaté tout à l'heure qu'on était en faiblesse pour répondre à un appel de la SOS de réfléchir sur la place de l'homme dans le travail, etc., sur la société. Finalement, on n'a pas été capable de le fournir là. Bon, ben, on n'est pas capable. Aujourd'hui, on n'est pas capable parce qu'on est 30, 40 et qu'on est plutôt jeune en moyenne et qu'on ne sait pas trop et qu'on ne connaît pas grand monde. Mais il faut que dans 15 ans, on soit un outil fort, reconnu, compétent dans ce domaine-là. Voilà, c'est une idée, plus qu'une proposition.
5 ans, ce serait mieux.
5 ans, ce serait mieux. Ça vient d'où ?
Voilà, si on leur dit 15 ans, le plus jeune, ils vont dire
bon. Non, mais je pense que vu que c'est un combat culturel, ça ne se fait pas, c'est pas en 2-3 ans. Voilà. Je pense que c'est un travail qui engage le long terme, mais ça implique une décision forte, ça implique peut-être aussi de le choisir. De choisir que vraiment, nous, Gadzar, allons travailler particulièrement cette question-là, pas seulement pour nous-mêmes ou pour les PG, mais voilà, la dimension de l'éducation. Comment est-ce que dès aujourd'hui, la vie future se préoccupe de former les PG qui sont en école aujourd'hui ? Comment on va les aider, puisque ça consiste, la dimension programme éducatif fait partie du projet, il y a vos enfants, etc. Ouais. Mais on peut se dire, nous, Gadzar chrétiens, vie future, archi-chrétiens, est-ce qu'on n'est pas en responsabilité d'aider ceux qui sont déjà à l'école, de commencer tout de suite leur préparation à être des ingénieurs écologiques, on se comprend. Voilà. Bon, je laisse ça très vaguement à votre réflexion. Moi, c'était quelques réflexions que je me faisais tout seul, en tout cas, en écoutant les problématiques un peu de la vie future. Et je me dis, pourquoi la question de la cotisation ? C'est une idée, je ne sais pas si c'est la réalité, mais globalement, on a du mal à attirer des cotisations. Alors, le phénomène de « on a plein de mails, machin, etc. », c'est compliqué de communiquer, c'est un aspect de la question. Un autre aspect, c'est de motiver sur la raison d'être. Voilà. À titre personnel, j'engage comment en disant ça, c'est pas forcément appelant de dire « donner, c'est pour aider les PG à faire le transport pour aller à l'RGC de Cluny ». C'est sympa de le faire, on est content de le faire. Mais si on donne une dimension plus grande peut-être que seulement celle-là, se dire, la vie future, elle se donne un rôle social important. Voilà. On est petit, on fera ce qu'on peut avec ce qu'on a, c'est vrai, très bien. Mais ça peut être davantage appelant. Tous les ingénieurs sont conscients des problèmes. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, dans le monde du travail, il y a une prise de conscience très générale. C'est pas seulement chez les Gadzars ou les ingénieurs ou les chrétiens, c'est partout. C'est le bordel, quoi. Non, mais des gens qui sont malheureux au travail, pour ceux qui travaillent déjà, il y a le chômage. Et ceux qui vont au travail en traînant les pieds, et ceux qui sont conscients qu'il y a un malaise, il y en a plein. Et le monde a soif de solutions. Voilà, nous, à une toute petite échelle à Montlignon, avec cet atelier Buguet, on est extrêmement surpris de l'intérêt que portent les gens, les élus, etc., sur notre projet qui vient de l'Église. C'est hyper étonnant. Voilà, ils sont prêts à entendre un discours de n'importe qui, quoi. Enfin, qui peut nous aider à résoudre ça ? Voilà. Donc je ne serais pas étonné qu'il y ait vraiment qu'il y ait une réponse, hein, qu'il y ait des gens qui soient prêts à s'investir là-dedans, qui soient prêts à donner aussi pour ceux qui ne peuvent pas participer, pour que cette réflexion avance et soit portée. Voilà, s'il y a un vrai projet à ce niveau-là, je pense qu'il peut y avoir une facilité à recevoir des fonds et à faire avancer des choses. Je ferme la parenthèse, je vais caser mon truc, je place ça dans votre réflexion, dans votre prière. Voilà, donc numéro 112, je reviens à ce troisième chapitre. Donc voilà, et ce paradigme, mais François, dit maintenant qu'il est possible de changer les choses. On peut changer les choses. Il est possible, dit-il, d'élargir de nouveau le regard et la liberté humaine. Et la liberté humaine est capable de limiter la technique, de l'orienter, comme de la mettre au service d'un autre type de progrès plus sain, plus humain, plus social, plus intégral. Pardon, je rouvre la parenthèse. Le fait qu'on se prévale aux arts et métiers d'avoir des valeurs par rapport à d'autres écoles d'ingénieurs, d'autres sociétés d'ingénieurs, etc., je pense que ça nous invite à penser sérieusement cette question de notre rôle là-dedans. Je referme la parenthèse. La libération par rapport au paradigme technocratique régnant a lieu, de fait, en certaines occasions. Par exemple, quand des communautés de petits producteurs optent pour des systèmes de production moins polluants, en soutenant un mode de vie, de bonheur et de cohabitation non consumériste. Ou bien quand la technique est orientée prioritairement pour résoudre les problèmes concrets des autres, avec la passion de les aider à vivre avec plus de dignité et moins de souffrance. Donc voilà, il y a pas mal d'initiatives, dit le pape François, ce n'est pas la liste importante, mais des choses qui se font quand même, où il y a des gens, dans le milieu chrétien ou pas du tout chrétien, qui cherchent quand même à sortir de cette emprise du paradigme technocratique, donc c'est possible. Parfois c'est très local et très, très limité, mais c'est possible. Ce qui arrive en ce moment nous met devant l'urgence d'avancer dans une révolution culturelle courageuse. Voilà. Il faut l'entendre. Voilà. Est-ce que c'est l'habit futile en tant que tel de porter ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut quelque part, chacun de nous, s'y mettre. Avec des moyens ou pas. D'avancer dans une révolution culturelle courageuse. La science et la technologie ne sont pas neutres, mais peuvent impliquer, du début à la fin d'un processus, diverses intentions et possibilités. Elles peuvent se configurer de différentes manières. Personne ne prétend vouloir retourner à l'époque des cavernes. D'accord ? Cependant, il est indispensable de ralentir la marche pour regarder la réalité d'une autre manière, recueillir les avancées positives et durables et en même temps récupérer les valeurs et les grandes finalités qui ont été détruites par une frénésie mégalomane. Vraiment, on a de quoi... Voilà, je trouve qu'on est au seuil, si on prend vraiment en compte cette question-là, on peut être au seuil d'une nouvelle ère, une nouvelle prise de conscience avec des nouvelles mises en pratique. Donc cette question du paradigme technocratique est traitée, et il avait annoncé aussi la question de l'anthropocentrisme moderne. Crise et conséquences, grand 3, de l'anthropocentrisme moderne. Je ne vais pas être trop long là-dessus, parce qu'on a déjà parlé un petit peu. L'anthropocentrisme veut dire mettre l'homme au centre de tout. Voilà, c'est plus Dieu, mais l'homme a pris la place de Dieu, et est au centre. Et cette exagération du rôle de l'homme dans la création, cette incompréhension du rôle qu'il a envers la création, par excès, en fait, c'est ce qu'on appelle cet anthropocentrisme. L'anthropocentrisme moderne, l'homme... est le roi de l'univers, l'homme a tous les droits. Cet anthropocentrisme moderne, paradoxalement, n'a pas fait du bien à l'homme, parce qu'il a fini par mettre la raison technique au-dessus de la réalité. Parce que l'être humain n'a plus le sentiment ni que la nature soit une norme valable, ni qu'elle lui offre un refuge vivant. Mais si l'être humain, ne redécouvre pas sa véritable place, il ne se comprend pas bien lui-même, et finit par contredire sa propre réalité. Non seulement la terre a été donnée par Dieu à l'homme qui doit en faire usage dans le respect de l'intention primitive, bonne, dans laquelle elle a été donnée, mais l'homme lui aussi est donné par Dieu à lui-même, et il doit donc respecter la structure naturelle et morale dont il a été doté. Il doit donc, ça c'est une partie importante, qu'il y a un respect à avoir envers soi-même, envers l'homme aussi. Il viendra de différentes manières. Se recevoir soi aussi. Toute la création est donnée par Dieu, mais nous sommes donnés aussi à nous-mêmes, en quelque sorte. Dans la modernité, il y a eu une grande démesure anthropocentrique, qui, sous d'autres formes connues aujourd'hui, continue aujourd'hui à nuire à toute référence commune et à toute tentative pour renforcer les liens sociaux. Anthropocentrisme, c'est aussi le ferment de l'individualisme. Voilà. Donc la crise sociale, elle est liée à cet anthropocentrisme. Si on met en fait l'homme au centre de l'univers, en fait on détruit les liens sociaux. On l'a vu tout à l'heure, tous les rapports qu'il y a entre destruction de l'environnement, de la société, tout ça, de l'économie. Du coup, la façon correcte, on l'a vu tout à l'heure déjà, la façon correcte d'interpréter le concept d'être humain comme seigneur de l'univers, vu que l'homme est responsable de la création, mais la façon correcte d'interpréter ce concept est plutôt celle de le considérer l'homme comme administrateur responsable. Administrateur responsable. « Si l'être humain se déclare autonome par rapport à la réalité et qu'il se pose en dominateur absolu, la base même de son existence s'écroule. Parce qu'au lieu de remplir son rôle de collaborateur de Dieu dans l'œuvre de la création, l'homme se substitue à Dieu et ainsi finit par provoquer la révolte de la nature. Si on exagère notre place, on détruit ce que nous sommes, on s'écroule. Numéro 118, on ne peut pas faire abstraction de l'humanité. Dans cette question d'environnement, de crise écologique, environnement, tout ce qu'on veut, on ne peut pas faire abstraction de l'humanité. On doit réfléchir sur l'homme. Il n'y aura pas de nouvelle relation avec la nature sans un être humain nouveau. C'est extrêmement fort ce que dit le pape. Vous pouvez avoir toute la technique que vous voulez, si ce n'est pas l'homme qui change, il n'y a absolument rien qui va changer. Il n'y a pas d'écologie sans anthropologie adéquate. Voilà. Ça, c'est une branche de l'écologie. L'anthropologie, qu'est-ce que l'homme ? Réfléchir sur l'homme. Et aujourd'hui, il y a un vrai débat, parce que la condition de l'homme, le regard qu'ont nos contemporains sur l'homme, est parfois extrêmement loin du nôtre, voire l'inverse, quoi. Toutes les questions qu'on a aujourd'hui de transhumanisme, c'est exactement l'opposé de nous, enfin de moi en tout cas. Et pourtant, il y a des gens qui vont vous répondre, l'homme nouveau, oui, on va le faire, l'homme nouveau. On va le brancher des clés USB, on va lui changer ses organes, tout ça. L'homme nouveau, c'est bon, on change l'ADN, enfin, on va le faire, l'homme nouveau. Hein. Il y a des gens qui sont fondamentalement et résolument et avec beaucoup d'émerveillement dans la conception et la constitution concrète aujourd'hui de l'homme nouveau. Sauf que quand on parle d'homme nouveau, nous, on ne parle pas tout à fait du même. Quoi. Oui. Et donc, il y a vraiment une réflexion à avoir pour asseoir notre anthropologie à nous, pour pouvoir l'expliquer aux autres. Là, on ne doit pas savoir seulement nous, chrétiens, qu'est-ce que c'est qu'un homme. Il faut qu'on soit capable, nous, chrétiens, d'annoncer à tous ce qu'est un homme et dans quelles conditions il pourra effectivement remettre l'harmonie dans la création. On a compris tout ça. Et donc on a compris que réfléchir à l'homme, à la place de l'homme, c'est aussi reconsidérer les relations humaines. C'est marrant comme on a à peu près les mêmes combats, les mêmes idées. C'est-à-dire changer l'homme et les questions de la société, de la relation humaine, enfin, je dirais tous les camps combattent pour ça. Tous les camps combattent pour un homme nouveau et pour des nouvelles relations humaines. Voilà. Sauf qu'on peut le faire avec des changements d'ADN et la multiplication de la connectivité pour faire des relations humaines informatiques. Ou on peut le faire en revenant à l'homme, le terreux, et qui se rappelle que la relation humaine, ça passe par ce que nous on appelle l'humanité, et c'est insuffisant à travers les moyens techniques modernes aujourd'hui, quoi. Mais c'est intéressant de prendre conscience, à mon avis, de l'équivalence presque des discours et des expressions utilisées parfois, pour des raisons complètement opposées, enfin, dans des perspectives totalement opposées. Donc nous aussi, nous prétendons, à travers ça, réfléchir aussi aux relations entre les personnes, assainir toutes les relations fondamentales de l'être humain. En effet, on ne peut pas envisager une relation avec l'environnement isolée de la relation avec les autres et avec Dieu. Ce serait un individualisme romantique déguisé en beauté écologique et un enfermement asphyxiant dans l'immanence. Les phrases parfois, ils sont balèzes, quoi. Bon. D'où, voilà, certains avaient remarqué en particulier, ça fait partie aussi de l'aspect-là, puisque tout est lié, la défense de la nature n'est pas compatible non plus avec la justification de l'avortement. C'est marrant comme là qu'on réagit. Pour certains, c'est absolument inconcevable, puisque la solution, c'est la liberté, etc. C'est absolument inconcevable d'associer écologie, où l'homme maîtrise son univers, etc., jusqu'à son corps, et cette question, vue que selon l'Église, de l'avortement, par exemple. Voilà. C'est un lieu où il y a deux conceptions d'écologie qui s'opposent. Quoi. Un anthropocentrisme, je suis numéro 122 maintenant, Un anthropocentrisme dévié donne lieu à un style de vie dévié. Voilà, dès qu'on sait plus que c'est l'homme, on vit différemment, c'est évident. Notamment dans l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium, dit Pape François, j'ai fait référence au relativisme pratique. Ce relativisme pratique, il s'exprime dans le fait que tout ce qui ne sert pas aux intérêts personnels immédiats est privé d'importance. Tout ce qui ne sert pas aux intérêts personnels immédiats est privé d'importance. Ça, on est tous mordus par ça aussi. Donc on est prêt à justifier n'importe quoi, tant que immédiatement ça me fait du bien, quoi. La culture du relativisme est la même pathologie, qui pousse une personne à exploiter son prochain et à le traiter comme un pur objet. Si ça me fait du bien, ça peut effacer. Voilà. Bon, je ne m'attarde pas trop là-dessus. Il y a quelques numéros ensuite, importants pour nous, sur le travail. La nécessité de préserver le travail. Le travail souffre de tout ce qu'on a vu précédemment, cette technologie exagérée, cet anthropocentrisme. Donc il faut aussi s'interroger sur la place du travail. C'est du numéro 124 au numéro 135, il me semble. Donc quelques numéros quand même. Dans n'importe quelle approche d'une écologie intégrale qui n'exclut pas l'être humain, il est indispensable d'incorporer la valeur du travail. Ça, c'est une des facettes de la réflexion. En réalité, l'intervention humaine, qui vise le développement prudent du créé, est la forme la plus adéquate d'en prendre soin. Qu'est-ce que le travail ? C'est considérer que nous avons à prendre soin, nous avons à en charge le développement prudent du créé, et cela grâce à quoi ? Grâce à l'intervention humaine. Le travail, c'est ça. Notre travail, c'est le développement prudent du créé par l'intervention humaine. Si nous essayons de considérer quelles sont les relations adéquates de l'être humain avec le monde qui l'entoure, la nécessité d'une conception correcte du travail émerge. Puisque, grosso modo, la relation entre nous et le monde qui nous entoure se fait, pour une part, à travers le travail. Donc on ne peut pas exclure la question du travail. Comment est-ce que l'humain intervient dans le créé ? C'est ce qu'on appelle le travail. Il fait un petit détour par Saint Benoît. 126, recueillons aussi quelque chose de la longue tradition de monachisme. Voilà, prix et travail, aura et labora, il y a une tradition chrétienne, une culture qui porte la question du travail. Cette manière de vivre le travail nous rend plus attentifs et plus respectueux de l'environnement. Elle imprègne de saine sobriété notre relation au monde. Voilà. Je lis quelques extraits seulement. Hein. Mais voilà, il parle de ce travail avec la spiritualité bénédictine qui donne cette fameuse prudence dans le travail, être attentif, respectueux, saine sobriété, voilà, des choses qui doivent qualifier notre travail à tous. Pas seulement ceux qui font pousser des choses dans la terre, mais toute la production qu'on peut faire, tout l'usage qu'on peut faire de la nature doit être marqué grâce à cette culture que nous avons dans la vie chrétienne, marqué par une attention, un respect de l'environnement, une saine sobriété. Voilà, considérer que notre travail nous met en relation avec ce monde où nous sommes chargés. Quand la capacité de contempler et de respecter est détériorée chez l'être humain, les conditions sont créées pour que le sens du travail soit défiguré. On peut défigurer le sens du travail en faisant pas plus de ce travail, en faisant de ce travail autre chose qu'un développement de ce qui nous est donné. Le travail devrait être le lieu de ce développement personnel multiple où plusieurs dimensions de la vie sont en jeu. En plus d'avoir un rôle sur l'univers créé par le travail, on a un rôle sur nous-mêmes. Le travail, je disais tout à l'heure, est constitutif de la vie de l'homme dans le plan de Dieu. Donc la façon qu'on a de travailler a un impact énorme sur nous-mêmes. Le travail devrait être le lieu de ce développement personnel multiple où plusieurs dimensions de la vie sont en jeu, plusieurs dimensions. La créativité, on en a parlé. La projection vers l'avenir. Le développement des capacités. La mise en pratique de valeurs. La communication avec les autres. une attitude d'adoration. Voilà, 6 notions, c'est le numéro 127, qui donne quelque chose du travail, la créativité. Voilà. Il doit y avoir dans tout travail de l'homme une dimension de créativité. Voilà. Donner une dignité à l'homme dans le travail, c'est lui donner, quoi qu'il en coûte, une ouverture créative. Voilà. Celui qui n'est qu'un simple exécutant, on lui supprime sa dignité. Il est absolument nécessaire que tout être humain qui travaille ait une marge de créativité, qu'il soit à la chaîne ou dans le marketing. Créativité donc. Projection vers l'avenir. C'est évident que projection vers l'avenir, c'est avoir une carrière, avoir un progrès dans ses responsabilités, sa propre vie et celle de sa famille. Une projection vers l'avenir, le travail offre cette projection vers l'avenir. Sans le travail, on a du mal à se projeter. Le développement des capacités, apprendre des techniques, apprendre des savoir-faire, apprendre des modes de travail avec plusieurs, etc. Bref, vous connaissez ça par cœur. Le développement des capacités. La mise en pratique de valeurs. Voilà. Dans le travail, on ne met pas seulement en pratique des savoir-faire techniques. On doit être, chacun où nous sommes, en mesure de mettre en pratique des valeurs. La communication avec les autres, une attitude d'adoration, il finit par ça, ça paraît pas évident, mais on doit, vu tout ce qu'on a dit sur la création qui nous est confiée, être en émerveillement, en adoration, aussi bien sur la matière qu'on utilise que sur le produit qu'on fournit. On doit être capable de s'émerveiller de ce qu'on utilise, de s'émerveiller de la façon dont on l'utilise, vu les possibilités qu'offre la nature, et on doit être émerveillé du produit qu'on fournit. Voilà. L'attitude d'adoration, je pense, ça intègre l'origine, le processus et le futur de tout ça. C'est pourquoi dans la réalité sociale mondiale actuelle, au-delà des intérêts limités des entreprises et d'une rationalité économique discutable, il est nécessaire, indépendamment des raisons économiques donc, mais pour la dignité de l'homme lui-même, que l'on continue à se donner comme objectif prioritaire l'accès au travail pour tous. Voilà. L'accès au travail pour tous, ce n'est pas seulement une question politique ou une question économique, c'est une question d'humanité, fondamentalement. Et il n'y aura pas de changement dans l'environnement et dans la société et dans tout ça, sans changement d'humanité. Voilà. Nous sommes appelés au travail dès notre création. Voilà, ça on l'a vu tout à l'heure, je passe. Du coup, il faut investir dans l'homme. Cesser d'investir dans les personnes pour obtenir plus de profits immédiats est une très mauvaise affaire pour la société. Ça, c'est... Il y a du travail à faire pour justifier ça économiquement. C'est ce qu'on veut faire un peu avec cet atelier Buguet, et ce que beaucoup d'autres ont fait d'ailleurs. Il y a beaucoup de témoignages, des chefs d'entreprise, qui ont sauvé leur entreprise économiquement en investissant sur l'humain. Il y a un bonhomme qui s'appelle Nicolas Janson, J-E-A-N-S-O-N, il me semble, qui a écrit un petit bouquin, je ne sais plus comment s'appelle le bouquin. Grosso modo, ce gars est un industriel, ingénieur, qui a bossé chez PSA toute sa vie. Et puis un beau jour, on lui demande de prendre la tête d'une boîte de pharmacie qui est en faillite. Voilà, chronique, dit Foucault, d'un sauvetage industriel. Donc le monde de prendre la tête d'une entreprise de production de produits pharmaceutiques en faillite. Il n'a pas du tout l'expérience technique de ces métiers-là. Mais grosso modo, il accepte de ça. Et son témoignage montre comment le problème de cette entreprise n'était pas des questions de mauvais investissements ou de gestion, etc. Le problème est que les hommes à l'intérieur et les femmes, tous les employés, vivaient inhumainement. Du coup, perte de communication, du coup, perte de confiance, du coup, perte du sens du bien commun, etc. Et il raconte comment, en s'investissant uniquement sur l'humain, en retravaillant sur les relations sociales à l'intérieur de l'entreprise, il a sauvé l'entreprise. Voilà. Donc ça existe, c'est un exemple parmi d'autres, certainement, mais ça vaut le coup de lire son témoignage, par exemple. J'avance un petit peu. Sur la question de la créativité, Si on ne peut interdire à un artiste de déployer sa capacité créatrice, c'est évident, on ne peut pas demander à un artiste de ne pas être créateur. On ne peut pas non plus inhiber ceux qui ont des dons spéciaux pour le service des autres. En même temps, on ne peut pas cesser de préciser toujours davantage les objectifs, les effets, le contexte et les limites éthiques de cette activité humaine qui est une forme de pouvoir comportant de hauts risques. Ça, on l'a vu. Je passe. La conclusion de ce chapitre, numéro 136. Comme nous l'avons vu dans ce chapitre, la technique séparée de l'éthique sera difficilement capable d'auto-limiter son propre pouvoir. Voilà, on ne fera pas l'économie d'une réflexion et d'un changement pratique lié à l'éthique, lié à la compréhension qu'on a de l'être humain. Quatrième chapitre, j'ai 3 minutes, ça va être chaud. Quatrième chapitre, une écologie intégrale. C'est pas très compliqué. Grosso modo, il fait un petit peu la liste de tout ce que doit prendre en compte une écologie intégrale. Je voudrais finir par vous partager la réflexion de Mgr Battu sur ce sujet qui est éclairante aussi. Donc j'essaie d'aller très vite. On a compris qu'on n'a pas une crise environnementale d'un côté, une crise économique de l'autre, etc. On a une crise globale qui engage tout. Étant donné l'ampleur des changements, il n'est plus possible de trouver une réponse spécifique et indépendante à chaque partie du problème. Il est fondamental de chercher des solutions intégrales qui prennent en compte les interactions des systèmes naturels entre eux avec les systèmes sociaux. C'est la même chose de traiter l'écosystème de la forêt de Rénovalieu qui est à côté que l'écosystème économique et social mondial. C'est le même problème. Il n'y a pas deux crises séparées, l'une environnementale et l'autre sociale, mais une seule et complexe crise socio-environnementale. Numéro 139. C'est pourquoi une écologie économique est nécessaire, capable d'obliger à considérer la réalité de manière plus ample. Aujourd'hui, l'analyse des problèmes environnementaux est inséparable de l'analyse des contextes humains, familiaux, de travail, urbains, de la relation de chaque personne avec elle-même, qui génère une façon déterminée d'entrer en rapport avec les autres et avec l'environnement. Il y a une interaction entre les écosystèmes et entre les divers modes de référence sociale, et ainsi, une fois de plus, il s'avère que le tout est supérieur à la partie. Ça, c'est le numéro 141. Toute atteinte à la solidarité et à l'amitié civique provoque des dommages à l'environnement. Et on pourrait voir dire l'inverse. Tout dommage à l'environnement provoque des atteintes à la solidarité et à l'amitié civique. Dans ce sens, l'écologie sociale est nécessairement institutionnelle et atteint progressivement les différentes dimensions qui vont du groupe social primaire, la famille, en passant par la communauté locale et la nation, jusqu'à la vie internationale. Voilà. Tout s'englobe. Donc il faut bien sûr, deuxième partie de ce chapitre, une écologie culturelle. Il y a avec le patrimoine culturel un patrimoine historique, artistique, culturel. Pardon, il y a avec le patrimoine naturel un patrimoine historique, artistique, culturel également menacé. Voilà pourquoi l'écologie suppose aussi la préservation des richesses culturelles de l'humanité au sens plus large du terme. Et après il explique pourquoi il faut, je ne sais plus si c'est là ou ailleurs, que c'est donc fondamental de préserver la culture des Pygmées, par exemple. Ça fait partie de la culture. Donc tout a son importance. Bon, ça, on l'a compris. Ensuite, grand 3, l'écologie de la vie quotidienne. Pour parler d'un authentique développement, il faut s'assurer qu'une amélioration intégrale dans la qualité de vie humaine se réalise. Cela implique d'analyser l'espace où vivent les personnes. Dans notre chambre, notre maison, notre lieu de travail, notre quartier. Le plus local, notre chambre, il faut qu'on s'interroge sur la façon que j'ai d'organiser ma chambre, quel impact elle a sur la pollution à Pékin. Bon, je vis un peu. La possession d'un logement est très étroitement liée à la dignité des personnes et au développement des familles. C'est une question centrale de l'écologie humaine. Je fais un petit focus sur un des aspects, comme ça, en passant. Voilà. typiquement, la question du logement est une question fondamentale de l'écologie humaine. Ça engage plein de choses, plein de réflexions. L'écologie humaine implique aussi quelque chose de très profond, la relation de la vie de l'être humain avec la loi morale inscrite dans sa propre nature. Un autre aspect, quand on disait tout à l'heure, se recevoir soi et la loi, soi et tel que Dieu nous a conçu et organisé, ça implique notre corps, etc. Je fais remarquer en passant qu'il parle à chaque fois là d'écologie humaine. Notez-le, on y reviendra après. Parce qu'on parle d'écologie intégrale, d'écologie humaine. Dans le cadre du principe du bien commun, l'ensemble des conditions sociales qui permettent tant au groupe qu'à chacun de leurs membres d'atteindre leur perfection d'une façon plus totale et plus aisée. Le bien commun, c'est de considérer tout ce qui est un bien partagé, tout ce qui est un bien qui nous unit et que nous avons à satisfaire. Le bien commun est à satisfaire. Il y a un perfectionnement de l'homme dans cette recherche du bien commun. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à penser à un perfectionnement de l'homme dans la recherche des biens individuels. Il y a une révolution culturelle pour qu'on comprenne comment le développement de l'homme passe par la recherche du bien commun. On pourrait faire un topo complet là-dessus. Et grand 5, la justice entre générations. Voilà. La notion de bien commun inclut aussi les générations futures. On ne peut plus parler de développement durable sans une solidarité intergénérationnelle. L'environnement se situe dans la logique de la réception. C'est un prêt que chaque génération reçoit et doit transmettre à la génération suivante. Une écologie intégrale possède cette vision ample. Une réflexion intéressante aussi, c'est qu'il dit, grosso modo, la question de l'intergénération, c'est pas seulement le devoir de transmettre un univers correct à nos successeurs, c'est que si on ne le fait pas, en fait c'est un échec pour nous. Ce ne sera pas seulement un dommage pour eux, ce sera un échec pour nous. Parce que ne pas bien gérer ce qui nous est confié, c'est un échec pour nous. Voilà. C'est un drame pour nous-mêmes, parce que cela mettrait en crise, donc le fait de mal transmettre ce que nous avons reçu, est un drame pour nous-mêmes, parce que cela met en crise le sens de notre propre passage sur cette terre. C'est notre propre vie qui est remise en cause par le fait qu'on transmette mal à nos successeurs. Donc c'est pas seulement la question des autres, c'est aussi nous-mêmes qui sommes interrogés par ça. Donc dans ce quatrième chapitre que j'ai plus que survolé, grosso modo, il fait un peu la liste de toutes les zones où l'écologie humaine a sa place. Donc il élargit déjà largement par rapport à la question de l'écologie environnementale. Et donc je vous partage rapidement la réflexion de Mgr Battu. Je peux vous fournir ce document-là par mail ou c'est facile. Donc c'est une conférence qu'il a faite sur l'écologie humaine, ça s'intitulait comme ça. Il l'a faite en novembre 2015, donc récemment à Rome. L'écologie humaine, une révolution, point d'interrogation. Est-ce que l'écologie humaine est une révolution? Parce qu'en soi l'écologie, ça fait longtemps qu'on entend parler, quoi. Alors qu'est-ce que l'écologie humaine apporte de plus? C'est un peu la question. Donc il parle de pas mal de... Parce que donc dans les concepts, on utilise parfois le mot écologie chrétienne. Voilà, typiquement quand on parle du Christ, vers qui toute la création va et de qui toute la création vient, c'est globalement un thème d'écologie chrétienne. Et le pape parlait ici beaucoup d'écologie humaine, et son chapitre était intitulé « Écologie intégrale ». Alors quel est le rapport entre écologie chrétienne, écologie humaine et écologie intégrale. Voilà, je passe sur l'écologie chrétienne qui suppose un regard chrétien sur l'écologie, etc. Voilà, avec plusieurs réflexions, notamment celle que les chrétiens sont parfois accusés d'être les auteurs du dérèglement de la nature, vu qu'ils se positionnent en dominateurs, etc. Le pape a largement répondu à cette accusation, mais on l'entend parfois. Donc il y a un passage sur le christianisme en accusation. Comment est-ce qu'on passe de l'écologie humaine à l'écologie intégrale? Et qu'est-ce que l'écologie humaine? Je vais essayer de vous faire ressortir la pensée de Mgr Battu. c'est fondamentalement cette question de la solidarité entre tous les éléments de la création. Et en ce qui concerne la créature raisonnable, donc l'homme, la responsabilité envers le cosmos entier dont elle est solidaire. Responsabilité, dit Jean Baster, que je ne connais pas. Non pas d'exploiter les autres créatures à son seul profit, de les pomper, de les vider, les phagocyter, mais de les élucider, les accomplir, leur faire dire ce qu'elles veulent dire. L'homme doit sans doute s'en servir, les mettre à son service, mais en même temps les servir, se mettre à leur disposition, pour que tous ensemble, l'homme et le cosmos, élèvent vers Dieu une commune louange. Donc ça, c'est plutôt une dimension chrétienne de l'écologie. Voilà. Dans cette dimension chrétienne de l'écologie, il y a cet appel à la conversion, l'urgence de la conversion dont parlait le pape François, identifier les problèmes et se convertir, et bien comprendre ce que veut dire l'homme intendant de la création, avec ce regard sur le Christ qui met toute la création dans une même communauté de destin, une rédemption cosmique, voilà, je parlais tout à l'heure de la rédemption du Christ, qui vient assumer tout l'univers. Je vous rappelle que, petite parenthèse liturgique, que l'année liturgique n'est pas exactement l'année civile, mais que l'année liturgique, c'est la célébration des mystères du Christ année après année, que cette année liturgique commence chaque année le premier dimanche de l'Avent, un petit rappel pour ceux qui savent, et qu'elle se conclut, cette année liturgique, à la fête du Christ roi de l'univers. Voilà. Donc, tous les ans, nous célébrons liturgiquement ce mystère du Christ qui assume l'univers, qui vient dans la création. Ça démarre dans la préparation au mystère de Noël, et on achève ce processus dans la fête du Christ, roi de l'univers. Voilà. Donc il y a une dimension vraiment chrétienne de l'écologie qui assume l'univers. Nous pouvons maintenant, et après le Mgr Battu parle d'un tournant magistériel. Voilà, c'est ça qui est intéressant de sa réflexion. Il parle d'un tournant magistériel de Jean-Paul II à François en passant par Benoît XVI. Voilà. Grosso modo, le discours social de l'Église, il s'est formalisé surtout depuis Léon XIII, donc depuis fin 19e. Première encyclique dite sociale, celle de Léon XIII, Rerum Novarum. Il y en a d'autres depuis, en passant par Jean-Paul II, type Laborem Exercens sur le travail de l'homme, etc., en passant par Benoît XVI, Caritas in Veritate, et François, Laudato Si. Voilà, en passant par d'autres textes, mais grosso modo, il y a une formalisation de la pensée sociale de l'Église qui se fait depuis à peu près un siècle. Et cette pensée sociale, aujourd'hui, se résume par ce thème d'écologie intégrale. J'ai l'impression que ça donne, c'est que grosso modo, la maturation de ce thème social réfléchi par l'Église va arriver à se définir par le thème d'écologie intégrale. Donc venons-en, dit Mgr Battu, à l'écologie humaine. Nous le ferons en considérant ce que je propose d'appeler le tournant magistériel des trois derniers pontificats. De quoi s'agit-il au juste? Peut-être pas d'une révolution, mais il s'agit du dépassement en cours, actuellement en cours, de la séparation classique et à bien des égards confortable entre les enseignements de l'Église touchant la vie personnelle et conjugale d'une part, et ceux touchant la vie sociale et la juste répartition des richesses d'autre part. Grosso modo, même l'Église elle-même avait un discours sur l'enseignement familial et moral, type, comment ça s'appelle, Lumen Vitae. Comme ça qu'on dit ? Ouais, c'est Lumen Vitae. Enfin, voilà, il y avait d'un côté un discours de l'Église sur la vie familiale, sociale, etc. Et de l'autre côté, un discours de l'Église sur la question de l'économie, de la répartition des richesses, etc. La révolution, entre guillemets, qui est en train de se passer, c'est de réunifier en fait les deux discours et d'en ajouter un troisième même, l'écologie environnementale. Donc ce qui est en train de se faire et de se comprendre aujourd'hui dans l'Église, c'est l'intégration de tout ça ensemble. On se souvient que la première encyclique dite sociale date de 1891, Rerum Novarum, Léon XIII. Il a fallu attendre 2005 pour que soient regroupés dans un compendium les éléments jusque-là dispersés de la doctrine sociale de l'Église. Il y avait une doctrine sociale de l'Église, mais il n'y avait aucun texte de la doctrine. Il y avait des textes parlant de la pensée sociale de l'Église, mais il n'y avait pas un texte qui résumait, qui était un corps cohérent de cette pensée sociale. C'est seulement en 2005 qu'il y a un compendium qui a rassemblé dans un seul ouvrage les différentes thématiques. Donc c'est déjà un progrès. Si l'on feuillette les 12 chapitres de ce compendium, dans lequel, l'écologie a encore une place modeste, il y a un chapitre qui parle d'écologie dans ce compendium. On constate qu'il y est question aussi bien de la personne humaine et de ses droits, du bien commun, de la vie économique et sociale, en particulier du travail, des droits des travailleurs, question aussi du mariage, de la famille, de la civilisation. Voilà, il y a plein de thèmes qui sont rassemblés dans un seul document. Voilà, c'est une première chose. Ce que contient en germe ce compendium, c'est une approche intégrale de ce qui est à faire. On est dans le domaine de la morale. Mais c'est en germe. Parce que cette approche intégrale se contentait pour l'instant de les mettre les uns à la suite des autres. Mais c'est pas encore abouti. C'est un progrès déjà de mettre ça sous l'angle de ce qui est à faire et pas seulement ce qui est à croire. Cette approche s'est développée de manière saisissante dans les 10 dernières années. Mais nous sommes loin d'en avoir perçu toute la force et toutes les conséquences. Nous vivons encore largement sur l'idée que je qualifiais tout à l'heure de confortable, à savoir qu'on peut traiter les sujets les uns un petit peu indépendamment des autres. Selon laquelle on peut approfondir et promouvoir une partie du discours de l'Église, par exemple sur la morale, en se désintéressant de l'autre. Pour le dire autrement et plus brutalement, si je suis catho de droite, je défendrai la famille et la morale conjugale. Si je suis catho de gauche, je m'engagerai pour la justice sociale. Donc chacun avait un petit peu son domaine et y travaillait. Mais chacun de nous, catho de gauche et catho de droite, restera chacun chez soi. Peut-être nous croiserons-nous de temps en temps à la messe et nos relations s'en tiendront là. Et bien ça, c'est en train d'exploser. Cette séparation un petit peu abstraite et stupide. L'écologie humaine n'est pas une formule visant à relativiser ce yalta des sensibilités, dit-il. L'écologie humaine est l'attestation qu'un tel cloisonnement des esprits et des actes est une trahison de la foi chrétienne. Voilà ce que c'est que l'écologie humaine. C'est considérer que traiter séparément ou chacun chez soi de différents sujets, c'est pas seulement stupide et une perte d'énergie, c'est une trahison de la foi chrétienne elle-même. C'est ce que j'appelle, dit-il, le tournant magistériel. Désormais, pour être précis, depuis l'encyclique de Benoît XVI, Caritas in Veritate, le classement des documents pontificaux en enseignement sur la famille d'un côté, enseignement sur la justice sociale de l'autre, est frappé d'obsolescence. Le progrès auquel nous sommes arrivés aujourd'hui, c'est de ne plus avoir de catégories dans la pensée sociale. Nous ne sommes pas entrés dans l'ère du mélange, mais nous avons pris une conscience nouvelle et irréversible que tout est lié. Donc là, il cite Pape François. De l'écologie humaine ensuite à l'écologie intégrale. Là, on a vu que l'écologie humaine considérait à rassembler tout ça. Le tournant magistériel permet enfin de parler d'écologie humaine. L'expression remonte à Jean-Paul II, dans l'encyclique Centesimus Annus, en 91, centenaire de Rerum Novarum. À une époque où l'on parlait encore d'encyclique sociale. Dans ce texte, salué par beaucoup comme une reformulation de l'anthropologie chrétienne, Jean-Paul II faisait mention de la question écologique en la reliant au consumérisme qui ne connaît plus de limites et à l'oubli dont il témoigne du premier don originel des choses faites par Dieu, oubli à la suite duquel, au lieu de remplir son rôle de collaborateur de Dieu, l'homme se substitue à Dieu et finit par provoquer la révolte de la nature, plus tyrannisée que gouvernée par lui. La réaction salutaire contre cette double tyrannie dont l'homme est à la fois coupable et victime, résidait, selon Jean-Paul II, dans une écologie humaine, consistant à se rappeler que l'homme, lui aussi, est donné par Dieu à lui-même et doit donc respecter la structure naturelle et morale dont il a été doté. Donc l'écologie humaine, c'est de rapprocher toutes ces dimensions-là et récuser la séparation entre la nature et la culture. Et il y a un passage de Caritas in Veritate qui, d'après le Mgr Battu, fonde le passage de de l'écologie humaine à l'écologie intégrale. Je vais vous le citer. C'est quand on intègre aussi la sélection de la nature. Pour préserver la nature, il n'est pas suffisant d'intervenir au moyen d'incitations ou de mesures économiques dissuasives. Une éducation appropriée n'y suffit pas non plus. Ce sont là des outils importants. Mais le point déterminant est la tenue morale de la société dans son ensemble. Si le droit à la vie et à la mort naturelle n'est pas respecté, si la conception, la gestation et la naissance de l'homme sont rendues artificielles, si des embryons humains sont sacrifiés pour la recherche, la conscience commune finit par perdre le concept d'écologie humaine et avec lui celui d'écologie environnementale. Exiger des nouvelles générations le respect du milieu naturel devient une contradiction quand l'éducation et les lois ne les aident pas à se respecter elles-mêmes. Le livre de la nature est unique et indivisible, qu'il s'agisse de l'environnement comme de la vie, de la sexualité, du mariage, de la famille, des relations sociales, en un mot, du développement humain intégral. Les devoirs que nous avons vis-à-vis de l'environnement sont liés aux devoirs que nous avons envers les personnes considérées en elles-mêmes et dans sa relation avec les autres. On ne peut exiger les uns et piétiner les autres. Voilà. Donc en fait, on voit que François, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, il est, comment dire, une marche supplémentaire après celle de Benoît XVI, qui déjà faisait le lien entre tout ce qui est humain, social, environnemental. Ce passage de Caritas in Veritate signe à mes yeux, dit Mgr Battu, la naissance magistérielle non seulement de l'écologie humaine, mais surtout de l'écologie intégrale. Le texte que je viens de citer là, il apparaît 7 fois dans l'encyclique Laudato Si. Voilà, ce simple paragraphe, 7 fois, il est cité là-dedans. Donc c'est vous dire que on s'appuie dessus pour aller plus loin. Mais la pensée de François va plus loin encore. Elle inscrit l'écologie humaine à l'intérieur de l'écologie intégrale. Cette notion fait l'objet de tout le chapitre 4 qu'on vient de lire, l'écologie intégrale. Et le terme n'apparaît pas moins de 8 fois dans l'encyclique, en particulier au numéro 137. Étant donné que tout est intimement lié et que les problèmes actuels requièrent un regard qui tienne compte de tous les aspects de la crise mondiale, je propose à présent que nous nous arrêtions pour penser aux diverses composantes d'une écologie intégrale qui a clairement des dimensions humaines et sociales. Voilà. Donc est aujourd'hui fondé le domaine de l'écologie intégrale. Cette écologie intégrale recouvre de multiples domaines. Elle est environnementale, économique et sociale, mais aussi culturelle, politique, intergénérationnelle, de la vie quotidienne. Voilà. Donc voilà le concept d'écologie intégrale. C'est le concept de l'harmonie de tous ces sujets-là qui étaient traités plus ou moins séparément, qui avaient été déjà un peu regroupés les uns avec les autres, mais qui étaient encore traités séparément. Traiter d'écologie intégrale, c'est en fait vouloir harmoniser l'ensemble, comprendre l'ensemble dans sa globalité. Voilà, je m'arrête là. Je termine là-dessus. Conclusion. L'écologie dite intégrale n'est pas la simple addition de l'écologie environnementale et de l'écologie humaine. C'est pas seulement le fait de les mettre l'un derrière l'autre, comme s'il s'agissait de deux domaines hétérogènes artificiellement réunis. L'écologie intégrale est la reconnaissance du lien organique entre tout ce qui était traité séparément, écologie environnementale, sociale, humaine, etc. Voilà. Travailler sur le lien organique entre tout ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'écologie intégrale. Merci de votre attention. On est plus en retard pour le repas que pour les vêtements. Je suis un peu désolé, il y a peut-être des questions, des réactions qui seraient sûrement intéressantes. On peut se donner 3 minutes si vous voulez, s'il y a des choses qui vous brûlent. Sinon, en tout cas, j'espère pas être trop ennuyeux sur la méthode, parce que c'est pas ce qui est le plus agréable, en tout cas, pour vous, sans doute. Mais j'ai pas tellement mieux. Non ? De toute façon, on pourra parler à table, hein, je crois. C'est permis. Voilà, bon appétit. Ce soir, tant que j'ai le micro, je parle un petit peu. Après le dîner, à partir de 8h30, on va avoir un temps de prière, d'adoration avec des confessions possibles dans la chapelle en bas. C'est un temps libre, évidemment. Il y a peut-être des enfants à coucher, etc. Donc, ça va démarrer à 8h30 avec ceux qui, les commis qui seront là. On va durer jusqu'à 9h30, jusqu'à 10h si jamais il y a beaucoup de demandes de confession, que, enfin, le temps, etc., ou que vous voulez prier. Mais il y a aussi un temps prévu de détente ce soir entre nous. Voilà. Et pour ça, je propose qu'on se retrouve, non pas ici, mais dans les gîtes en bas, il y a, dans le hameau des familles, comme on l'appelle, il y a une des maisons qui s'appelle Louise-Élie Martin, qui est un peu centrale et qui comporte une grande salle. Ce sera un peu plus convivial qu'ici, et ça permettra aussi à ceux qui ont des enfants qui dorment d'être pas trop loin, si vous voulez. Donc j'irai montrer à un géo de ce week-end où ça se trouve. Mais c'est au centre de Mots des Familles, qui est au pied de la basilique.